RMC Intégral Tour, Frédéric Adam.
Le Tour de France fait relâche aujourd'hui après 10 étapes très longues, très rudes, et il fait grand beau aujourd'hui sur Besançon, en Franche-Comté, dans le Doubs exactement. Il fait plus de 25 degrés, il fait ciel bleu et les coureurs peuvent profiter de ces heures de repos qu'ils savourent, parce que la course repart dès demain en direction de Saint-Étienne depuis Oyonnax. Évidemment, on n'est pas tout seul. Il y en a qui ont pris du repos aujourd'hui, mais il y en a qui continuent de bosser. On accueille les deux consultants cyclisme d'RMC Sport sur le Tour, évidemment les deux références du Tour. Le druide, Cyril Guimard. Bonjour Cyril.
Bonjour. Belle étape de repos. On a enfin retrouvé le soleil sur la route du Tour, mais il n'y a pas de coureurs sur la route.
Il y en a qui ont sorti les pantalons manches courtes, comme dirait l'autre. Luc Leblanc est là également. Salut Luc, t'as encore les gouttes qui perlent sur le front.
C'était terrible ce matin.
Oui, il y en a qui roulent.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vélo.
Comme les coureurs.
J'avais la gorge en feu.
Comme les coureurs, Luc a roulé ce matin. Ou est-ce que c'était exactement sur certains coteaux, non?
Oui, Vaune en Romanée.
Près de Dijon.
Ouais, Romanée Conti, tu sais où il y a le Romanée Conti, quoi, et tout ça. Voilà, bon.
Bon, t'en as pas abusé.
Mais je devais faire les caveaux cet après-midi.
T'es mieux ici.
J'ai mis la flèche à droite.
T'es mieux avec nous. Programme très riche aujourd'hui pour cette journée de repos, avec dans quelques instants, on va revenir sur la grosse information d'hier. Outre la victoire de Nibali, sa prise de pouvoir au classement général, l'abandon d'Alberto Contador. Vous venez de l'entendre dans le best-of de ces deux dernières heures. Alberto Contador a quitté la course et on accueillera tout à l'heure, dans quelques instants même, Philippe Mauduit, le directeur sportif de l'équipe Tinkoff Saxo. Son directeur sportif, il nous dira tout sur les coulisses de la chute, de l'abandon et du départ d'Alberto Contador, qui est rentré en Espagne. Il sera out pour au moins 5-6 semaines. Dans la foulée, on aura une large place consacrée aux Français, avec 4 coureurs au top 10 du classement général. On accueillera Brian Coquard, qui ne vise pas le classement général, qui découvre le Tour, lui, le vice-champion olympique de l'Omnium, le coureur de l'équipe Europcar, lui, qui s'est mis en évidence depuis le départ du Tour en Angleterre. Et puis à 17h40, on rentrera dans les arcanes du Tour de France. On ira rendre hommage à un monsieur, la voix du Tour. Tout le monde le connaît évidemment, c'est Daniel Manjas, qui est en train de vivre ses derniers jours sur le Tour. On ne l'enterre pas encore, Daniel, mais on verra avec lui et avec son probable successeur que la relève est déjà prête. On aura l'ancien, appelons-le ainsi, Daniel Manjas, et on aura peut-être le futur, celui qui prendra la suite, le tout jeune Nicolas Lhotte. Ce sera assurément un bon moment de vélo et un bon moment de radio. Le programme aujourd'hui, messieurs, pour les coureurs, pour les 179 rescapés, c'était journée de repos. Repos total, Cyril ?
Non, pas repos total. C'est très rare que les coureurs, le jour de l'étape de repos, ne vont pas faire une petite sortie. Bien sûr, ils vont pas y mettre d'intensité, mais ils vont aller faire entre 1 heure, 2 heures, voire plus pour certains, car il est toujours dangereux, après 10 jours de compétition, de longs kilomètres, des conditions atmosphériques difficiles, il est dangereux de ne rien faire, et c'est dangereux surtout parce que on va faire de la rétention d'eau. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez reprendre 2 ou 3 kilos, et au départ de l'étape demain, on aura plutôt les grosses cuisses. Donc il est conseillé d'aller faire justement, on va dire, ce petit décrassage, et puis ce décrassage permet aussi à l'ensemble des fibres musculaires, bien sûr, de s'oxygéner, de se détendre aussi, et avec le soleil, je crois que c'était une bonne chose. Et puis bien sûr, il y a les soins, surtout pour ceux qui ont beaucoup reçu, parce qu'il y a eu des chutes où ça a tapé fort. Et puis il y a le massage. Et puis c'est aussi une journée importante, parce que la plupart des coureurs, j'ai bien la plupart, pas tous, parce que il y en a qui habitent l'autre côté de l'Atlantique ou l'autre côté du Pacifique, et les familles viennent aussi rendre visite à leur chérie.
Et puis dans ce programme très riche en cette journée de repos pour les coureurs, en tout cas pour les cadors, les leaders du général ou les stars du peloton, il y a un passage obligé devant les micros, conférence de presse à 14h15 tout à l'heure dans les environs de Besançon. C'était au tour du maillot jaune, Vincenzo Nibali, le leader de la course, l'italien qui a répondu aux questions de plusieurs dizaines de journalistes. Il y avait foule tout à l'heure à l'hôtel de l'équipe Astana. Vincenzo Nibali qui s'est exprimé évidemment sur le grand fait d'hier, l'abandon de son principal concurrent au classement général, Alberto Contador. Écoutez, le requin de Messine, le maillot jaune du Tour de France, Vincenzo Nibali, tout à l'heure, il était au micro de Pierre Feignat.
Non, justement, je regrette les absences d'Alberto et Chris. J'aurais voulu me battre avec eux dans la haute montagne. Ça aurait été plus beau, plus spectaculaire pour tout le monde. Après, il y a beaucoup d'autres coureurs qui sont arrivés ici avec énormément d'ambition. Il y en a beaucoup qui veulent faire un grand Tour de France. Les deux derniers vainqueurs du Tour ne sont plus là, mais il y a encore d'autres coureurs très importants.
Voilà, Vincenzo Nibali, leader du classement général, qui a frappé un grand coup hier. Il n'a pas encore assommé le Tour de France à la planche des belles filles, mais tout de même, en cette journée de repos sous le soleil à Besançon, il compte 2 minutes 23 d'avance sur son dauphin au classement général, l'Australien Richie Porte. Troisième Valverde à 2,47. Les Français Bardet, Galopin et Pinot sont à plus de 3 minutes. Vincenzo Nibali qui fait office, qui fait figure de grand favori pour la victoire finale. Si, comme Vincenzo Nibali, vous voulez passer à l'antenne sur RMC, si vous voulez poser des questions à nos consultants, si vous voulez rentrer le débat, évidemment, le réflexe 3216, allez également sur le hashtag RMC Live, 3216 et hashtag RMC Live, le compte Twitter, c'est le moyen d'être relayé. Et on n'hésitera pas, évidemment, avant les auditeurs, avant d'autres interviews, on reviendra sur l'abandon d'Alberto Contador hier soir dans quelques instants, et on écoutera l'espagnol. On accueille, comme promis, Philippe Mauduit, son directeur sportif chez Tinkoff Saxo. Un homme triste, on imagine. Un homme désemparé. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Salut Philippe, c'est Lucho.
Bonjour Philippe.
Salut Lucho, bonjour Cyril. Bonjour à tous.
Comment va le moral, Philippe, aujourd'hui, en cette journée d'après, au lendemain de cet abandon de votre leader chez Saxo?
Eh bien, c'est la journée d'après. Hein. Et on a essayé de tourner la page. Évidemment, hier soir, c'était chape de plomb et c'était difficile pour tous. C'était difficile pour Alberto. C'était difficile pour tous les coureurs qui l'entourent et qui ont bossé toute l'année pour cet événement qu'on souhaitait voir se dérouler très différemment. Et puis c'était difficile pour le staff aussi parce que les gars sont là pour entourer les coureurs, on est là pour les aider, pour les servir, pour les assister, et tout le monde a donné le meilleur jusqu'à maintenant, et donc quand l'objectif ne peut pas être atteint parce que il y a un événement comme ça majeur qui nous empêche de, en tout cas, d'essayer de l'atteindre, bah forcément que c'est la chape de plomb et c'est difficile. Mais Alberto est rentré à la maison et nous, on profite du soleil et on se serre les coudes pour continuer et fixer de nouveaux objectifs pour la fin de ce Tour de France.
On s'était quitté hier soir à la fin de l'intégral Tour avec ces nouvelles fractures du tibia nécessitant probablement une intervention chirurgicale, une opération. Quelles sont les dernières informations, le dernier bulletin médical, le bulletin de santé de Contador?
Ben, il faut attendre encore un petit peu parce qu'il a pris l'avion à 15h et il y a à peu près 2 heures de vol pour rejoindre Madrid. À Madrid, il va être pris en charge par le staff du Real Madrid et ils vont lui faire toute une batterie d'examens et d'explorations pour voir exactement qu'il y a, ce qu'il peut être fait, et puis s'il n'y a pas d'autres pépins qu'on n'aurait pas détectés parce que ça a quand même été une chute violente et il faut prendre le temps de faire un bilan complet et puis à partir de là ils vont nous donner leur diagnostic et ce que envisagent de faire.
Alberto Contador qui est arrivé tard hier soir à l'hôtel de Tinkoff Saxo. Évidemment, il avait abandonné la mort dans l'âme après avoir chassé en compagnie de ses équipiers. On va l'écouter, Alberto Contador, hier soir lorsqu'il est descendu du bus Tinkoff Saxo après être passé par la case radio. Il est au micro de Francis Simoes et Annie Bazar.
Oui, c'est une journée dure parce que j'ai travaillé des mois pour arriver en forme sur ce tour. Et j'ai fait énormément de sacrifices. J'avais vraiment l'impression d'être dans ma meilleure forme. Ça restera un souvenir difficile. C'est la dure loi du sport. Maintenant, il faut récupérer au plus vite et voir ce que nous pourrons faire de plus.
Eh bien, il y a qu'à traduire et interpréter les propos. Cyril, quand vous entendez ça, c'est le discours d'un coureur qui reste mobilisé ou il a fatalement décroché?
Je ne pense pas qu'il ait totalement décroché. On décroche pas comme ça en 3 minutes, en 5 minutes, voire en 2 heures. Il est tout simplement en train de prendre conscience de la réalité. Il prend conscience de la réalité. Peut-être qu'il la refuse encore intérieurement, qu'il se dit peut-être, attends, c'est un rêve, il va peut-être falloir que je me réveille. C'est un moment très difficile de prise de conscience que on a tout fait, et je crois que cette année, il n'avait jamais été aussi bien que depuis 4 ou 5 ans. On le sentait serein, il y avait son équipe était sereine, même Philippe qui est avec nous aujourd'hui était totalement serein. On avait échangé d'ailleurs quelques mots au Novotel de Lille. Tout semblait bien se passer, les pavés sans encombre, il avait perdu un peu de temps. Et c'est vrai que le comptador de cette année n'était pas celui des 2 ou 3 dernières années, voire des 4 dernières années. On avait retrouvé quelqu'un qui avait retrouvé l'envie et le goût de faire du vélo et de se battre. Et je crois qu'il aurait été très difficile à battre, même par Nibali.
Alberto Contador qui a terminé par sa phrase par « on va voir ce qu'on va pouvoir faire maintenant ». On pensait à une éventuelle participation, une séance de rattrapage à la prochaine Vuelta, le Tour d'Espagne qu'il a déjà remporté. A priori, Philippe Mauduit, son directeur sportif chez Tinkoff Saxo, s'est compromis. Aura-t-il le temps d'être au départ de Jerez de la Frontera le 23 août prochain?
Non, pour l'instant ça n'est pas compromis. On attend le bilan médical. Quoi qu'il en soit, sa fracture du tibia va être opérée demain matin, normalement. Donc ça c'est pas quelque chose de très très important. En fin de semaine, il peut remonter sur le home trainer s'il n'y a que ça. Maintenant, on ne sait pas s'il y a des lésions ligamentaires ou des traumatismes musculaires plus importants qui nécessitent un peu plus de temps de repos. Ça, il faut qu'on attende ce soir pour le savoir. Mais si ça se limite à la fracture du tibia, normalement, il s'engagera sur la Vuelta. En tout cas, dès hier soir, même dans la voiture au retour, il était déjà en train de tirer des plans pour la Vuelta en se disant, voilà, si je suis 5 jours sans rouler, l'opération. Je refais une semaine sur le home trainer, après je pense que je vais pouvoir aller sur la route, si je fais ça, un stage là, enfin bref, il
est déjà... Philippe, est-ce qu'on n'est pas en train de se persuader qu'il pourra être au départ du Tour d'Espagne? C'est quelle date le premier jour de la Vuelta?
Non, mais en fait, nous on se persuade de rien, hein. comme je vous disais, on attend le bilan médical pour vraiment savoir. Lui c'est sa force de caractère, c'est son mental de toujours, quand il a un pépin, se projeter sur le prochain événement auquel il pourrait participer. Peut-être que ce soir on tirera définitivement un trait sur la Vuelta, ou au contraire on planifiera pour l'aider et faire en sorte que sa récupération lui permette d'aller sur la Vuelta.
Philippe,
mais bon, pour nous, c'est point d'interrogation encore ce soir.
Philippe, là, tu dis une fracture du tibia, il va se faire opérer très certainement demain matin. Et tu dis ensuite qu'il reprendrait l'home trainer dans une semaine, enfin là, 5-6 jours
oui,
après l'opération.
C'est une fracture assez bénigne en fait, et elle peut être traitée, tu sais Lucho, on appareille les clavicules et 3-4 ouais. jours après les mecs sont sur le home trainer. Et il semblerait que la fracture qu'il a pourrait être traitée de la même façon. Bon, il faut rester prudent, mais on en saura plus ce soir.
D'accord.
Très clairement, c'est un objectif qui devient concret et envisageable. Un duel Contador Froome sur la Vuelta, ce n'est pas une revanche, mais c'est vraiment une séance de rattrapage. Quelle promotion pour la Vuelta, Philippe?
Oui, enfin, sauf que j'insiste, on n'en est pas encore là. Ça, c'est, okay. Il faut vraiment attendre le bilan médical de ce soir pour savoir ce qu'il a exactement et comment okay. ça peut être traité et combien de temps il faut pour traiter. Maintenant, si ça se limite à cette fracture bénigne qui a été détectée à l'arrivée de l'étape, normalement, il se ferait poser 2 vis pour consolider le tibia. et auquel cas il pourrait reprendre des séances d'homme-traîneur 5-6 jours après. Ça c'est le cas le plus optimiste. Après, pour le reste, on est tenu à ce bilan médical qui va être fait dans l'après-midi et on ne peut pas en dire plus. Après, c'est que de la spéculation.
Bon, est-ce que le tour des Tinkoff Saxo est terminé avec l'abandon d'Alberto Contador? Est-ce que le chemin sera long pour votre équipe en direction des Champs-Élysées?
Non, le tour n'est absolument pas terminé pour nous. On est là et on va se battre jusqu'au bout. Les objectifs, évidemment, sont très différents. Hier soir, on a laissé un peu tout le monde tranquille et on a juste essayé de se retrouver autour d'un dîner tous ensemble où on a débouché quelques bonnes bouteilles.
J'ai entendu parler de ça, oui, effectivement.
Parce qu'on a des partenaires qui nous font le plaisir de nous envoyer des très bons vins de leur meilleure cave en Toscane. Et on n'a pas abusé, mais on s'est resserré un petit peu tous autour de la table et ce matin, on a évoqué le reste du tour avec les 7 coureurs qui sont encore là et on commence à tirer des plans sur la comète et bien sûr que le tour continue et évidemment qu'on a envie de montrer notre maillot et pas seulement de le montrer mais aussi d'aller chercher des étapes ou en tout cas faire les choses bien quoi.
Avec, on l'imagine, Michael Rogers, Nicolas Roche, il y a Rafał Majka aussi, le Polonais, le mieux classé au général chez Tinkoff, désormais. Mais c'est Rogers à plus de 46 minutes de Vincenzo Nibali. Le classement général, c'est bel et bien fini. Hein.
Oui, non, mais c'est évident que le classement général, on a tiré un trait dessus. Ça, faudrait être un illuminé pour penser qu'on peut encore faire des choses. Mais je veux dire, ça, ce sont les circonstances de la course. On a voulu que tout le monde accompagne Alberto hier parce que ça a été un choc, parce qu'il a fallu prendre des décisions rapides. On ne tergiverse pas quand c'est comme ça. Et puis, de toute façon, Michael était déjà loin au général et on ne pouvait pas espérer grand-chose. Et malgré tout, on a encore la possibilité de se recentrer sur d'autres objectifs et le général, c'est comme ça, on oublie.
Tiens, tu parles tactique, Philippe. La tactique, on en parle avec un auditeur qui a composé le 32-16, c'est Cyril. Bonjour et merci de nous rejoindre.
C'est un plaisir. Partagez, messieurs. Bonjour Frédéric Adam.
Salut.
Bonjour à Lucio. Et
bonjour.
J'ai mangé le nom de votre invité.
C'est Philippe Mauduit.
Excusez-moi. Bonjour Philippe.
Bonjour Cyril.
Voilà, et ben écoutez, je suis bien désolé pour vous d'avoir perdu votre leader sur un fait de course comme ça. C'est bien dommage, je crois, pour tout le monde, parce que Contador, c'est quand même un homme important du vélo, et je trouve que c'est dommage de perdre des leaders sur des chutes comme ça. C'est une perte énorme pour le cyclisme et pour le Tour de France, pour tous les auditeurs, les passionnés de vélo comme nous, parce que nous, ce qu'on aime, c'est la bagarre en haut lieu avec les têtes. Je pense que c'est vachement passionnant, et c'est triste de perdre un leader comme ça, et je pense que ma peine est grande, mais la vôtre doit être multipliée par 100.
Ta question, Cyril, elle concernait la tactique, justement.
J'aimerais savoir, vu que Alberto maintenant a abandonné, quelle était votre tactique de course quand Alberto devait attaquer dans les Alpes, plutôt dans les Pyrénées, comment étaient envisagées les choses chez la Saxo Bank?
Là, c'est du virtuel qu'on est en train de faire. On n'est pas sur PlayStation, mais presque. Maintenant que Contador est à out, Philippe, à toi de nous révéler les plans secrets de l'équipe Tinkoff Saxo.
En fait, nous, on avait déjà prévu d'attaquer hier et on avait prévu de mettre en route juste après cette descente, justement. Et on avait vraiment envie d'imprimer un rythme effréné à la course à partir de la montée qui suivait cette descente.
Tu sais que tu es en train de nous fendre le cœur, là. C'est un coup de poignard que tu nous donnes.
Oui, mais bon.
on a moins mal que Contador, oui.
Je n'ai plus rien à cacher par rapport à la tactique qui était mise en place. Et donc, nous, notre envie, c'était de le mettre sur orbite pour la côte des Chevrères et essayer de regagner un maximum de temps hier déjà, parce que l'étape de la veille avait été très difficile, elle avait marqué les organismes. Et nos coureurs étaient tous bien frais et dispo au matin parce qu'on avait géré ces derniers jours pour faire en sorte qu'ils ne se dispersent pas trop. Et on espérait beaucoup de cette étape. On ne voulait pas attendre les Alpes, on voulait déjà mettre un coup de couteau dès hier, mais bon, après, les événements de la course en ont voulu autrement.
Merci.
Et puis, Et puis après, il y avait encore des petites surprises, avec notamment le col de Palakis, avant d'aborder Champs-Rouges.
Tout ça était repéré au millimètre. Comme l'a dit Contador, il n'avait jamais aussi minutieusement préparé le tour. La grosse déception, ça donne encore plus de regrets, Philippe.
Non, parce que ça, c'est notre boulot de mettre des choses en place, de faire des repérages, d'anticiper, de mettre en place un plan tactique, de bien connaître le terrain. Leader ou pas leader, je crois qu'aujourd'hui, les équipes sont devenues vraiment professionnelles. Et si on le fait pas, c'est un manque de professionnalisme, hein, tout simplement. Donc après, faut pas avoir de regrets par rapport à ça. C'est notre travail, c'est notre métier de faire ça. Celui qui ne le fait pas bien son job et c'est tout quoi. Alors après, il y a un événement qui fait que tout tombe à terre, mais on ne l'a pas fait pour rien, parce qu'il reste encore 7 coureurs en course qu'on va pouvoir aider par notre connaissance du terrain.
Tant de mois et tant d'investissements mis à terre en même temps que Contador hier. On va remercier Cyril d'avoir posé cette question, qui effectivement nous a pas mal éclairé sur la tactique idéale de l'équipe Tinkoff Saxo. Merci à toi, Philippe, de t'être rendu disponible sur l'antenne d'RMC. La course continue, et peut-être, on te le souhaite, les bouteilles de vin de Toscane vont continuer à affluer de l'autre côté des Alpes.
Oh, j'espère pas, parce que ce qu'on a fait hier, c'était pour penser à un mauvais moment, et j'espère que si on les ouvre, ce sera pour les bons,
mais on
les ouvrira plus pour les mauvais moments.
Hein. Tu les balances ici, on n'a pas besoin de se consoler ici pour les ouvrir, notamment les deux consultants que j'ai face à moi, Cyril et Luc, il n'y a pas d'occasion prétexte pour ouvrir une bouteille. Hein. Merci Philippe.
Gourmands.
Merci Philippe. À demain sur la course. La course reprendra ses droits sans Contador, mais avec un Vincenzo Nibali maillot jaune. À bientôt Philippe Mauduit, le patron, le directeur sportif de Tinkoff Saxo. On revient ici à Besançon pour cette journée de repos sur le 101e Tour de France sous le soleil. Qu'ils en profitent les coureurs après 10 étapes quasi automnales. Venez participer à l'intégral tour qui a lieu jusqu'à 18h. Sur le hashtag RMC Live et au 3216 par téléphone, vous êtes les bienvenus. On revient dans quelques instants pour parler de français cette fois. Notre invité s'appelle Brian Coquart et il découvre de manière très brillante le Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Frédéric Adam.
De retour ici sous le soleil franc-comtois, sous le soleil doubiste ici à Besançon, l'une des capitales françaises de l'horlogerie. Que les coureurs profitent de cette belle et longue journée de repos, que ce soit sur le vélo, parce que oui, il faut rouler même un jour de repos sur le Tour de France, au risque de perdre le rythme et de vivre des lendemains qui déchantent. On peut aussi profiter de sa petite famille, c'est le cas de pas mal de coureurs français ici aux alentours de Besançon. En parlant des Français, messieurs, Luc, Cyril, on est en train de vivre un Tour de France exceptionnel, au moins au niveau du classement général. Une victoire d'étape tricolore, on s'en souvient, Blaise Cadry, c'était à Gérardmer. Un maillot à pois porté par ce même Blaise Cadry, un maillot jaune porté par Tony Gallopin à l'espace d'une journée, un 14 juillet hier, et puis un maillot blanc, Romain Bardet, meilleur jeune du Tour, Romain Bardet qui fait partie des 4 tricolores, 4 Français dans les 8 premiers du Tour, derrière Nibali. À 3 minutes 01, on trouve Bardet, le grimpeur de l'équipe AG2R La Mondiale. Tony Gallopin a bien résisté hier en direction de la planche des Belles Filles. Il est à 3-12. Thibaut Pinot, le grimpeur de la FDJ.fr, qui fait deuxième hier derrière Vincenzo Nibali, est à 3-47. Et puis qui complète ce quatuor français, Jean-Christophe Perrault, un autre coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Il est 8e. Ça fait un bail qui a presque mi-tour de France. On n'a pas connu telle situation, 4 Français dans les 8 premiers.
Ah, pour retrouver un tel exploit des coureurs français, je crois qu'il faut remonter à 20 ans, peut-être même à plus. Peut-être à l'époque, on va dire, Poulidor, Delisle, Thévenet. Donc ça veut dire que ça remonte quand même à presque 40 ans. Maintenant, il y a peut-être des statistiques qui nous manquent. Luc Leblanc, peut-être.
Luc, t'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce
que attends, c'est que début des années 90, il y en avait quand même pas mal de Français. Tu regardes en 91, il y avait Charlie Mottet, il y avait moi, il y avait Laurent. On était trois dans les six premiers au classement général final.
Eh bien voilà une bonne information.
Oui, tu vois, tu y arrives. Une sortie vélo du côté
vois,
de,
et voilà, et d'un seul coup,
mais voilà quoi, il faut pas remonter à 40 ans quand même. Depuis 40 ans, il s'en est passé des choses sur le Tour de France avec les Français.
Question très claire, messieurs, le quatuor français dans les 8 premiers, il est clairement dû, on va pas jouer les rabat-joie, mais c'est une réalité. Il est dû au forfait, aux chutes, à tout ce qui se passe sur la route, aux accidents.
Oh bah la réponse, Frédéric, vous la connaissez. Il y a déjà deux coureurs, les deux grands favoris du Tour, qui ont disparu, ce qui veut dire que tous les coureurs ont gagné deux places depuis le départ de ce Tour de France, du moins dans ce qu'on pouvait imaginer en termes de classement. Mais je crois que sur ce Tour de France qui sera peut-être le tour de la rupture ou d'un changement de
pas le tour du renouveau, Cyril, hein, on ne l'a que
non,
trop
mais
entendu
ça,
hein.
Le tour du renouveau, on nous l'a fait il y a 10 ans déjà, hein. On nous l'a fait pour le centième, nous l'a fait pour les 100 ans, pour le centième. Donc non, le tour du renouveau, il y a longtemps que le cyclisme s'est un petit peu assaini, on va dire, et je pense qu'il l'est aujourd'hui de façon très concrète. Mais on le doit surtout à ce week-end du 14 juillet où les Français ont été exceptionnels.
Oui.
Et on attendait depuis quelques années l'arrivée de ces Français qu'on connaît bien, qui sont jeunes, qui ont encore une marge de progression. On les retrouve en tête du classement et c'est quelque chose de tout à fait logique.
Et voilà, on est allé voir avec Pierre Fénien tout à l'heure à l'hôtel des Astana le maillot jaune du Tour de France, Vincenzo Nibali, qui s'est exprimé non seulement sur sa victoire hier, sur l'absence de Contador, on l'a entendu il y a quelques minutes, mais aussi sur ces Français qui montent, parmi lesquels Romain Bardet, quatrième du général, podiumable potentiellement, et qui porte le maillot blanc de meilleur jeune. L'expertise, l'avis de Vincenzo Nibali sur Romain Bardet, écoutez-le.
Il faut que je fasse vraiment attention aux coureurs comme Thibaut Pinot et Romain Bardet. J'ai une petite avance, mais elle n'est vraiment pas énorme. Après, dans le Tour, on peut se retrouver facilement avec 4 minutes d'avance. On l'a vu l'autre jour avec Kwiatkowski. Ce sont tous des coureurs très bien préparés pour faire un grand Tour. Il ne faut vraiment sous-estimer personne. L'année dernière, sur la Vuelta, on a eu la bêtise de sous-estimer Chris Horner, et au final, c'est lui qui a gagné.
Méfiance, selon Vincenzo Nibali, toujours en compagnie de Luc Leblanc et Cyril Guimard, nos deux consultants sur ce Tour pour la première journée de repos. Il y a quelque chose à faire côté français au classement général. Il y a eu des coups d'éclat avec la victoire de Kadri, avec le maillot jaune de Tony Gallopin. Et puis avant, il y avait eu des belles choses au départ d'Angleterre et dans la foulée. Et parmi ces belles choses, des places d'honneur décrochées par un de ces Français qui montent et qui est notre invité sur l'antenne d'RMC pour cet intégral Tour. C'est Brian Coquard, le sprinter de l'équipe Europcar. Bonjour Brian, merci de nous rejoindre.
Bonjour à tous.
Bonjour Brian.
Le sourire dans la voix, Brian, c'est une constante. Ça fait du bien de se reposer enfin sous le soleil après ces 10 jours, non pas en enfer, mais ces 10 jours pénibles pour les coureurs.
C'est sûr que ça fait beaucoup de bien parce qu'il y avait beaucoup de stress depuis le début de ce Tour, beaucoup de chutes, on n'a pas été gâté par la météo, et du coup avec ces deux étapes très difficiles qu'on vient de faire, ça fait du bien de prendre un peu de repos.
C'est la découverte, c'est la grande découverte. Tu es néophyte du Tour, 22 ans. On a cessé de rappeler ton palmarès sur ces premières étapes. Vice-champion olympique de l'Omnium, et ça t'a réussi de revenir en Angleterre, quatrième de deux étapes. Brian, est-ce que le Tour, pour le néophyte que tu es, c'est définitivement un autre monde, même pour un coureur professionnel qui commence à se faire l'expérience, à prendre du métier?
Ah oui, c'est sûr que c'est complètement autre chose. C'est un cumulé de tout ce qu'on peut faire toute l'année en 3 semaines. Il y a, voilà, tous les jours, il y a des,
On a pu le voir, il y avait un Paris-Roubaix, il y avait un mini-liège bastonnière en Angleterre. S'il pleut, on se retrouve confronté à des conditions climatiques un peu comme les classiques flandriennes en début de saison. Donc c'est vraiment toute une saison en trois semaines, et du coup c'est difficile, c'est stressant, faut faire attention aux chutes, et du coup il faut, voilà, c'est vraiment dans la tête que c'était le plus difficile sur ce début de Tour de France.
Au général, bon, ce n'est pas du tout ton objectif, tu es à plus d'une heure 24, ça veut dire que tu as découvert les groupes étaux aussi, ces expériences à l'arrière de la course, ces groupes qui se forment très loin des hommes de tête en montagne, ça a ses règles, et te voilà déjà habitué, peut-être pas encore au commandement du groupe étaux, mais tu as pris ton ticket d'entrée et peut-être ton abonnement.
Mon abonnement, ouais, je pense, après c'est... Je pense que je grimpe un peu mieux que la plupart des autres sprinteurs, hormis Sagan, mais je pense pas qu'on peut trop le cataloguer comme sprinter, mais je pense que voilà, j'ai pu le voir sur ces étapes, je grimpe un peu mieux que Greppel, Kittel et Arnaud Démare, et ce qui me permet de m'accrocher un peu plus longtemps dans le peloton, et pour l'instant j'ai pas été encore dans le dernier groupe et tout, souvent dans celui du juste devant, ce qui me laisse un peu plus de temps pour les délais, et du coup c'est un peu moins stressant, ça me permet de récupérer, je pense, un petit peu plus que sur ces étapes de montagne.
Avant ces étapes de montagne, il y avait eu cette première semaine avec départ en Angleterre, deux quatrièmes places. Cyril, ton œil d'expert a été impressionné par les performances de Brian derrière l'Equitel, Sagan et autres sprinteurs de renom?
Non, parce qu'on connaît Brian depuis déjà un certain temps, on connaît ses qualités, et il lui a manqué un tout petit peu de réussite hein, pour faire tilt. Il lui a manqué il y a un coureur qui a explosé l'écran, Kevin Redzin, il lui a manqué deux autres coureurs pour arriver à le mettre en position pour pouvoir aller gagner. Il a la pointe de vitesse pour battre les Kittel, pour battre les Greipel, il lui manque juste un tout petit train pour l'amener dans les meilleures conditions. Donc pour moi, je ne suis pas surpris de ses performances, parce que je considère qu'il est peut-être le meilleur des trois Français au sprint, parce que justement il a cette capacité à mieux passer les bosses tel qu'il le décrivait il y a quelques instants.
Meilleur donc qu'Arnaud Démare, le champion de France.
Il a plus de cordes à son arc.
Ok, et que Nasser Bouhanni, que l'on a croisé dans le camion RMC au cours de cette première partie de tour. Luc.
Ouais, un petit peu comme Sean Kelly.
Par exemple.
Ouais, on peut le donner un petit peu comme Sean Kelly. Peut-être que Sean grimpait peut-être un petit peu mieux puisqu'elle a remporté plusieurs Paris-Nice.
C'est un mélange, hein. C'est un mélange de Kelly, de ouais, McEwen.
Ouais. Cyril, un conseil à Brian. En a-t-il besoin de conseils, lui qui a 22 ans et qui, on le rappelle, découvre le tour sous le maillot Europe Car?
On a toujours besoin d'éclairage, de conseils. Je pense qu'il a des gens autour de lui qui sont là pour cela. Je crois surtout qu'il doit prendre confiance en lui. Et si j'ai un conseil à lui dire, c'est peut-être qu'il prenne certaines responsabilités pour aller chercher des coureurs en qui il a confiance pour lui emmener les sprints.
Brian, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu te sens les épaules et le coup de poing assez rageur pour imposer tes choix? En as-tu d'ailleurs des exigences?
Pour l'instant, j'ai pas trop d'exigences. J'arrive un peu dans ce tour pour apprendre, pour prendre de l'expérience, et puis voilà, on est en train de construire quelque chose d'intéressant. Je pense que, comme vous l'avez dit, Kevin Reza a fait un super boulot et super remarqué, et du coup je pense que il y a une bande de jeunes dans cette équipe ou avec laquelle il faut qu'on arrive à bien travailler pour pouvoir concurrencer les grands trains comme Giant ou Quickstep. Après c'est sûr que mieux on est emmené et plus facile c'est pour gagner.
Il en reste des étapes pour les sprinteurs, tu en as coché quelques-unes d'ici les champs?
Bah, il reste quelques étapes pour les sprinteurs, oui, il en reste deux ou trois. Après j'ai une petite pensée pour l'étape de jeudi à Saint-Etienne qui
il faut pas le dire. Ne dis rien.
Je l'ai lui proposé.
Non, rien.
Après, il faut voir. Voilà comment la course se passe. S'il y a une échappée, si c'est une étape pour les baroudeurs ou quoi. Mais je pense que voilà, Kevin Reza grimpe aussi très bien, même un peu mieux que moi. Et du coup, ça pourrait permettre d'arriver nous deux un peu plus frais sur le final à Saint-Étienne, donc pourquoi pas. Mais on va voir. Je prends les étapes les unes après les autres. Ce qui est important, c'est déjà d'arriver dans les délais et de bien récupérer. Et puis on verra.
Non, mais ça, ce sera à Champs-Rousses.
On verra ça plus tard. On verra ça le week-end prochain. Merci beaucoup, Brian, d'avoir été avec nous en cette journée de repos. J'espère qu'on t'a pas
bon courage. Hein.
On t'a pas écourté la sieste
pour la suite.
La sieste.
Oui. Merci bien.
Bonne fin de tour et on espère te revoir à l'honneur d'ici les Champs-Élysées et peut-être pourquoi pas sur les Champs-Élysées. Merci Brian, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et fin de cette intégrale Tour de France en direct de Besançon en cette journée de repos. On revient dans quelques instants avec la voix du Tour, mais peut-être les deux voix du Tour, puisqu'un certain speaker va prendre sa retraite à la fin de la saison et peut-être que la relève est juste là. On en reparle dans quelques instants, à tout de suite. Le retour ici à Besançon pour cette journée de repos. Messieurs, c'est, on l'a dit, une journée qui porte bien son nom pour les coureurs, mais pas que. Est-ce que c'est une journée qui est appréciée des coureurs? Est-ce que vraiment le peloton attend cette journée de repos, Luc? Parce qu'on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas sortir du Tour sous peine d'être démobilisé et de vivre vraiment des étapes compliquées par la suite, spécialement quand la montagne arrive.
C'est quand même compliqué une journée de repos sur le Tour. Il faut faire attention à l'alimentation, il faut pas se déconcentrer. Et c'est vrai que moi, j'apprécie plus ou moins parce que tu as toujours la famille qui vient te voir et après, quand elle repart, t'as le coup de blues. Donc c'est vraiment pas évident à gérer. Et puis aussi il faut profiter pleinement de cette journée.
C'est le sensible qui parle.
Mais oui, mais aussi savoir que le lendemain c'est quand même on repart dans le très difficile. Donc c'est toujours difficile de repartir et de couper après avoir fait des efforts quand même très violents pendant plusieurs jours. D'un seul coup tu t'arrêtes et pof, le lendemain tu reprends les efforts aussi violents que la première semaine, donc c'est pas facile à gérer quand même.
Très brièvement, Cyril, tu te souviens avoir perdu par l'intermédiaire d'un coureur un Tour de France sur une journée de repos très vite?
Non, j'ai pas de souvenir à ce niveau-là. On essayait de le gérer le mieux possible. Et quand je dis le gérer le mieux possible, c'est les faire rouler. Mais on allait même plus loin que ça, puisqu'on supprimait tout simplement le repas du midi pour rester dans la même configuration des jours de
course.
Avec toi,
on mangeait quand même.
Pour ne pas perturber le rythme alimentaire, dans la mesure où il y avait le petit déjeuner très fourni, le départ des étapes, le grand repas du soir et le reste de la journée. Les coureurs, ils mangeaient sur le vélo.
Le druide était un quasi...
C'est dommage, parce que je voulais raconter
l'anecdote. Heureusement qu'il nous fait pas ça. On revient dans quelques instants avec Daniel Mangia. C'est Nicolas Lhote.
RMC Intégral Tour. Frédéric Adam.
De retour ici à Besançon, toujours sous le soleil. Quelle joie de retrouver des conditions clémentes à la veille de la 11e étape du Tour. La première partie a été ventée, chahutée, humide, voire très 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 pluvieuse. Ce sera a priori bien meilleur demain en direction d'Oyonnax, puis après-demain vers Saint-Étienne et puis les Alpes et la descente vers le sud. Dans quelques instants, on aura des hommes heureux avec nous, les speakers du Tour qui sont parfois en cabine mais plus souvent exposés aux conditions sur la ligne d'arrivée ou au départ des étapes. Avant cela, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, la simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'échappée infernale et puis le livre Jour de fête, la grande histoire du Tour de France aux éditions Chroniques pour tenter de gagner ce cadeau, ce superbe cadeau. Appelez le 3216 touche 6 ou envoyez RMC par SMS au 7 32 16. Vous connaissez la recette. Bonne chance à tous. Allez, messieurs, Luc, Cyril, vous n'êtes plus les seules stars autour de cette table. On reçoit une légende du Tour, la voix du Tour, vous allez la reconnaître très rapidement. Bonjour Daniel.
Bonjour Fred.
C'est difficile de dire un bonjour tout simple quand on a l'habitude de...
Si tu veux, je te dis bonsoir.
Non, mais on a l'habitude d'entendre Daniel commencer ses bonjours par...
Bonjour.
Non, bonjour mesdames et messieurs.
Voilà, chers amis, bonjour. C'est souvent comme ça que je commande. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la route du Tour.
41e Tour de France, ouais. Daniel Mangias qui tirera sa révérence à la fin de l'année. Comment on se sent à aller, il reste encore 10, 11 jours. Ouais. Hein.
Ah ben je le vis pleinement, sereinement. Bon, j'y pensais depuis 2008. Dans un premier temps, je devais m'arrêter en 2013 parce que ça faisait mon 40e tour. Et puis, je me suis ravisé.
2013, c'était le centenaire du tour. C'était une belle occasion pour tirer sa révérence.
Oui, mais j'aime bien les chiffres. Et j'ai commencé mon premier tour en 74. Cyril Guimard était encore dans le peloton. Et 2014, ça fait 40 ans pile poil. Ça fait 41 tours, mais 40 ans.
Très bien.
Et j'ai revu Christian Prudhomme à Avranches, lorsque la ville d'Avranches présentait son étape il y a un an. Il m'a dit, t'as bien fait parce qu'on retourne à Saint-Lary-Soulan, au plat d'Adé, là où tout a commencé pour toi il y a 40 ans. Donc c'est en quelque sorte une boucle qui est bouclée.
Alors cette boucle, elle va se poursuivre car, comme à l'habitude de le dire Cyril autour de cette table, la nature a horreur du vide, la nature va peut-être offrir un successeur à Daniel Mangias, en tout cas, on en teste pas mal. Hein. L'organisateur du Tour a mis un dispositif particulier pour assurer la relève de Mangias.
Oui, il a changé un petit peu le style. Il y aura deux animateurs au départ et deux animateurs à l'arrivée.
Ah, il en faut deux pour remplacer Daniel.
Quatre, pardon.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Quatre en même. Donc non, mais et ce parce qu'il y a de multiples animations maintenant sur la ligne de départ. Mmh. Donc ceux qui commenteront le départ ne commenteront pas l'arrivée et vice versa. Donc c'est une nouvelle méthode d'animation, une méthode un peu différente.
Daniel, parmi ceux qui présentent les étapes, qui présentent les coureurs à chaque départ d'étape, il y a Nicolas Loth, nouveau venu, qui est un speaker qui a fait ses classes quand même hein, dans les catégories amateurs, ancien coureur. Excellent coureur amateur. Nicolas, bienvenue sur l'antenne d'RMC. Bonjour.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
Salut
Nicolas.
Une voix déjà bien mûre, bien posée, bien mature. Quel âge tu as ?
27 ans.
27 ans, ancien coureur. Le track, pas le track, comment s'est passé cette première étape ? C'était au départ de Leeds, la première étape en Angleterre.
Bah justement, moi, j'avais pas un rôle très important en Angleterre parce qu'il y avait déjà un speaker anglais plus Marc Chavet qui est franco-américain donc qui pratique très bien.
C'est ton binôme, hein, puisque vous êtes deux au départ, très bien.
C'est ça. Et donc moi, j'ai plus regardé, observé en Angleterre.
Alors, et je vais te dire, ça me fait drôle de l'avoir là parce que Cyril Guimard ou Lucho connaissent son papa qui a été coureur pro, Jean-Pierre Loth. Et moi là, il est là au micro, il a 27 ans après, j'ai eu l'occasion d'annoncer sa naissance parce que son père organisait une course qui s'appelait les boucles des Hauts-de-Seine.
Ouais.
Et c'est le jour où Nicolas a choisi de venir au monde, c'était au mois d'avril, et j'ai eu le plaisir d'annoncer sa naissance. Et puis Cyril est celui qui m'a fait venir dans les critériums, donc c'est un moment sympa de les voir l'un à l'autre.
Cyril qui va peut-être s'exprimer par voix intermédiaire, pas tataillée, hein, mais Nico, tu es un spécialiste des autres voix, tu es capable d'imiter beaucoup de coureurs, est-ce que tu le fais d'ailleurs sur le podium de départ, est-ce que tu t'amuses à copier Cyril ou à copier Daniel?
Non, j'essaie de faire, pour faire un petit peu marrer les gens, Vincenzo Nibali, parce qu'il a ses caractéristiques quand même.
Tu peux nous le faire?
Je sais pas si je le tiens vraiment. Vas-y. Mais ça fait un peu c'est important, molto importante vincere l'étape questo però yesterday it was a difficult day.
Quelque chose.
Parce que tu sais, il y a ce côté un petit peu Cosa Nostra, la Sicile.
Ne parlons pas de mafia, hein.
Non, pas du tout. Non. Non, mais il a ce côté-là, je trouve, il est très très attachant, mais il a ce côté un petit peu rebelle comme ça qui est intéressant.
Tu as couru sous les ordres de Luc Leblanc quand il dirigeait
le grand Lucho.
Tu as eu l'occasion de t'accaparer sa voix, son ton, est-ce que tu le tiens?
Non, je le tiens pas. Bon, je sais les et tout. Oh non, Fred, oh non, et tout.
Il y en a un que tu tiens. Tu le sauras, Luc, tu le sauras. Ça s'appelle un tic de langage à corriger.
Et tu fais Cyril?
Pas trop, mais c'est vrai que j'essaye parfois de le
tenir, il ne faut pas non plus se précipiter. Hein. Brian Coquard ou Kevin Redza pourraient pourquoi pas se défendre aujourd'hui.
Bon, et ben ça c'est Cyril, ouais, voilà. Clairement, mais il y en a un que tu tiens parfaitement. Daniel, c'est pas un
parce
problème.
Pas, hein.
C'est pas un problème. Je sais que Daniel n'aime pas être imité.
Mais
personne n'aime être imité.
C'est pas que j'aime pas être imité, j'aime pas m'entendre. C'est pas la même chose.
Alors ferme les yeux, on va voir si tu t'entends. Vas-y Nico.
Voilà, madame, messieurs, dans quelques minutes, nous allons accueillir tous les coureurs et en compagnie d'une personnalité qui a fait 40 Tours de France. Il nous vient de Saint-Martin-de-Landelle. Je crois qu'on peut l'applaudir plus fort encore. Daniel Mangias, qui nous rejoint sur le podium. Et quand j'ai pas la voix, eh ben, je fais sans son.
Ouais.
Voilà, merci Nicolas.
Merci.
T'as beaucoup grandi en 27 ans.
Merci à tous les deux d'être venus. Daniel, est-ce que Nicolas est un successeur crédible?
Ah, je pense qu'il, oui, pour moi, il fait partie de l'équipe. Et il a bien réussi ses fondations cette année. Donc maintenant, c'est un conseil que je donnerai à tous les jeunes. On est là pour servir un événement. Donc, de valoriser les coureurs, de les mettre en évidence, de rester humble. Si on a un peu de notoriété au fil des ans, tant mieux. Mais je pense qu'il a, je l'ai écouté un petit peu le matin, il prend beaucoup de plaisir à présenter les champions et c'est vrai que le Tour de France nous donne plaisir parce que ce soit les champions d'hier ou ceux d'aujourd'hui, on les regarde avec un profond respect et une réelle admiration.
Nicolas Lhote, le jeune speaker du Tour au départ des étapes, c'est ça le moteur, c'est le plaisir. Il n'y a plus de trac aujourd'hui après 10 étapes du Tour?
Le pouvoir du moment présent, Fred.
Oh,
tu connais bien. Non, j'essaie de pas me prendre la tête, d'essayer d'être le plus moi-même possible, sans penser à tout côté égo et puis est-ce que les gens penseraient. C'est pas ça qui m'intéresse.
Et je crois que l'organisation a eu cette bonne idée de faire deux binômes. Je trouve que c'est très très bien parce que ça dégage du trac, du stress. On est à deux, donc on dilue tout ça et Marc, Chavez et puis Nicolas au départ, c'est très très bien.
Cyril, très brièvement, les speakers font partie du Tour et du monde du vélo. Ils sont partis intégralement prenantes.
Ils font totalement partie de la famille. J'ai presque envie de dire, et malheureusement, il n'y a plus les critériums d'après Tour de France, où là se soudait une véritable amitié, une véritable complicité dans tous ces critériums, que ce soit en Bretagne, c'est là où il y en avait le plus, mais dans le reste de la France. Et c'est là où on apprenait le plus à se connaître, et c'est là où Daniel a appris à connaître le plus les coureurs cyclistes, à les aimer, bien sûr, à les admirer. Maintenant, alors, la nouvelle génération l'entend sur le Tour de France, ceux qui y sont. Et puis, il y a également toutes les épreuves Coupe de France, toutes les épreuves françaises. Il fait même toutes les présentations, à part Nicolas qu'on a fait une avec le Vélo Club de Roubaix. Et il fait toutes les animations, les présentations d'équipe. C'est un métier qui fait partie de la famille du sport cycliste.
Et c'est pas une retraite, hein, c'est une décélération.
Non, bien sûr. Et on ne remplace pas Daniel Mangias.
Il
sera
sur le Tour du Limousin tous les ans,
entre
Daniel.
Merci, messieurs. Merci, Daniel, d'avoir été avec nous. Merci Nicolas. Daniel, bonne fin de tour. Nico aussi, bien sûr, mais Daniel profite jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout,
ah,
savoure ces 11 dernières étapes avant les Champs-Élysées. À bientôt.